Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les animaux de la ferme sont-ils mal élevés ? Cette année, elle s'appelle Imminence. Elle succède à Haute, c'était en 2018, Fine en 2017, Cerise, Filouze, Bella, Aronde les années précédentes. Elles, ce sont les vaches égéries du Salon de l'Agriculture qui se tient à Paris jusqu'à dimanche et il en va ainsi depuis le début des années 2000. Pour le Salon, c'est l'occasion de mettre en avant chaque année la filière de l'élevage français, une filière qui recouvre bien d'autres catégories que les bovins et qui se trouve confrontée à une remise en cause de son modèle, voire de son existence, car l'élevage n'a pas bonne presse, son impact environnemental notamment est pointé comme une des causes du réchauffement climatique. La consommation de viande s'en ressent. Selon une étude récente du Crédoc, elle a baissé de 12% en France au cours de la décennie écoulée. Aux considérations sur l'environnement s'ajoute l'idée que manger trop de viande serait mauvais pour la santé, mais aussi que les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés et abattus infligent des souffrances inutiles chez ces derniers. Alors c'est le sens de l'appel à un lundi vert, sans viande, lancé fin janvier, auquel répond notamment ces jours-ci la campagne de l'Interbev, l'association interprofessionnelle du bétail et des viandes. Aimez la viande, mangez-en mieux. Alors qu'en pensent les éleveurs et les animaux de la ferme? Sont-ils mal élevés? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre éleveurs qui ont accepté de venir jusque dans nos studios à la maison de la radio. Commencez par vous, Émilie Janin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éleveuse de vaches charolaises à Berizot, c'est dans le département de la Côte d'Or. Vous avez un élevage qui compte 200 bovins. Mm-hmm. Vous êtes membre de la Confédération Paysanne, membre également du Bœuf Éthique, qui est une association, enfin en tout cas, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
C'est une SAS en fait, oui.
Voilà, qui œuvre à la mise en place d'abattoirs mobiles, on aura l'occasion d'en discuter, et vous témoignez dans un ouvrage à paraître intitulé « Paroles paysannes sur les relations humain-animal ». Pour discuter avec vous, Étienne Gagneron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éleveur de vaches allaitantes et de poules pondeuses en bio à Vasselay dans le département du Cher, vice-président de la FNSEA et vous êtes responsable au sein de ce syndicat du bien-être animal. Yvon Leclerc est notre troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Éleveur de porcs et de vaches laitières à Mésanger, c'est dans
c'est
le département
ça.
De la Mayenne. Vous travaillez au sein d'un GAEC. Alors GAEC, pour les non-initiés, il faut le rappeler à chaque fois, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun et vous êtes par ailleurs président du territoire Nord-Loire du groupe coopératif agroalimentaire Terena. Là aussi, on va avoir l'occasion d'expliquer un petit peu ce qu'est ce groupe coopératif. Et puis, troisième et quatrième invité, Laurent Vindevogel, bonsoir.
Bonsoir.
Éleveur de poules pondeuses en agriculture biologique, vous avez une marque, la ferme de Tante Lucie. Votre exploitation se trouve à Pissy, dans le département de la Somme. Vous vendez une partie de votre production à Pool House, qui est une société qui achète les œufs un peu plus cher en échange de pratiques plus respectueuses de l'animal. Alors, on va avoir l'occasion de discuter de tous ces différents aspects. Vous pourrez nous raconter comment aujourd'hui vous envisagez l'élevage. Est-ce que vos pratiques ont évolué? Mais je voudrais d'abord, moi, pour faire un premier tour de table, savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes devenus les uns et les autres des éleveurs. Émilie Janin, comment est-ce que vous êtes tombée dans ce métier?
Moi, je suis née un peu dedans. Mon père était éleveur et puis, en fait, naturellement, en fait, j'avais une relation particulière avec les vaches et à un moment donné, j'ai pas forcément tout le temps travaillé dans l'agriculture. Enfin, en tout cas, en tant qu'éleveuse, j'ai travaillé un petit peu en dehors quelques années. J'ai fait des études qui étaient aussi pas forcément que agricoles, notamment de psychologie. Mais à un moment donné, c'était un choix de revenir à la terre et surtout aux vaches avec qui j'ai une relation particulière.
C'était autant peut-être le fait que ce soit des vaches que le fait que ce soit de l'élevage qui vous a convaincu de faire ce métier. Si je ne sais pas si votre père avait eu une exploitation de, je sais pas, de brebis par exemple, ça aurait peut-être été différent.
Il avait des brebis, hein, mais j'ai pas le feeling.
Je ne savais pas.
Il avait des brebis, mais moi je n'avais pas le feeling avec les brebis. J'ai vraiment une relation particulière avec cette espèce, les bovins, quoi, les vaches, quoi.
La reprise de l'exploitation familiale, je crois que c'est aussi votre cas, Yvon Leclerc.
Oui, pareil. Donc en fait, moi non plus, hein, je me destinais pas forcément quand j'avais 15 ans à l'exploitation agricole. Et puis, au fil des études, j'ai quand même fait des études agricoles. J'ai travaillé un petit peu à l'extérieur. Et puis, un beau jour, je me suis décidé à reprendre l'exploitation de mes parents, qui à l'époque n'avaient que des vaches laitières. Et le porc est arrivé par la suite parce que c'est ma femme qui m'a rejoint, qui était aide-soignante à l'époque, et qui souhaitait absolument produire, enfin venir s'installer sur la ferme, et qui aimait les porcs et qui a décidé de mettre en place un atelier porcin.
Alors, Laurent Vindevogel, vous, les poules pondeuses, c'est venu comment ?
C'est venu tout naturellement puisque j'ai une petite ferme de 35 hectares. Et dans la Somme, c'est vraiment très petit. Pas de quota laitier, donc pas de solution de vache laitière. Après, le hors-sol était la solution, mais il fallait trouver un bâtiment d'occasion parce que on allait pour le pouvoir d'achat de 35 hectares. Donc j'ai trouvé un poulailler d'occasion en 2010 et je l'ai aménagé pendant un an de travaux avec 6000 poules pondeuses bio dedans, donc deux lots de 3000, mais avec la clé de voûte, avec 15 ans de salariat juste auparavant, en même temps que ma ferme, bien entendu, que la clé de voûte, c'est le commerce, maîtriser le commerce.
Et avant 2010, voilà. Vous étiez déjà éleveur?
J'étais
vous
déjà agriculteur, 35 hectares, toujours, mis à installer en 92, sur un élevage de porc plein air dans un bois. Donc j'étais un peu le précurseur, mais à cette époque-là, ça marchait pas bien du tout. C'était le même prix que l'industriel. Je me suis cassé la figure 3 ans après. Et j'apprends toujours de mes échecs, de mes erreurs, et donc j'ai voulu travailler 15 ans extérieur, et voilà le parcours.
Alors vous, Étienne Gagnon, ce sont les vaches charolaises et les poules pondeuses en bio. Comment est-ce que vous êtes arrivé déjà dans ce métier, et ensuite dans ce type d'élevage précis?
Alors il y avait une ferme familiale à la base. Moi, je me destinais pas vraiment à ça. J'ai pas fait d'études agricoles, j'ai bourlingué un peu. J'ai pas fait d'études du tout, en fait. Voilà. Pas de diplôme, j'ai le permis, pas tout le temps non plus. Et puis à 23, 24 ans, je me suis dit que c'était quand même un métier de passion. Et puis ce qui était intéressant, c'est que la ferme n'était pas en bio, mais avait un système très autonome déjà. En fait, moi, là, j'ai pas bouleversé grand-chose au système. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un troupeau de vaches allaitantes. Et puis après, moi, j'ai ramené les poules pondeuses plus tard. Et puis surtout, l'investissement dans un magasin de producteurs, SAS, point de vente collectif, où on est 8 producteurs. Et en fait, aujourd'hui, on vend pratiquement plus de 3/4 de la production de l'exploitation, la viande, les œufs, en direct aux consommateurs.
Allez voir Leclerc, j'ai vu que ça faisait plus d'une vingtaine d'années que vous aviez repris l'exploitation familiale. Est-ce que le métier d'éleveur, vous l'avez vu beaucoup évoluer en 20 ans?
Dans la façon de travailler, tous les jours, au quotidien, pour alimenter les animaux, non, pas forcément. Par contre, c'est vrai, puisque c'est un peu le sujet de l'émission, c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a une évolution dans l'attente du consommateur qui fait que, je pense, moi, l'impression que j'ai, c'est que le consommateur découvre de jour en jour le métier qu'on fait. Des fois, il est un peu surpris par le métier, parce que peut-être qu'il s'en est détaché un peu. Et donc, nous, on est, enfin moi, en tant qu'éleveur, c'est vrai que souvent les griefs qu'on peut subir de la part des consommateurs, nous viennent en pleine tête. Et aujourd'hui, ce qui a évolué chez nous, c'est la façon de travailler pour je dirais, satisfaire en partie. On le fait pas surtout, malheureusement, mais en partie les attentes de consommateurs. Et depuis 20 ans, on évalue là-dessus, on évolue. Et petit à petit pas, mais on évolue.
Est-ce que vous seriez d'accord, alors, du coup, les uns et les autres, enfin, à l'exception d'Yvan Leclerc qui vient de s'exprimer sur le sujet, pour dire que finalement, c'est peut-être d'abord le regard des consommateurs, le regard du public qui a changé, si ce n'est sur l'élevage, mais en tout cas sur son approche de l'élevage et des animaux de la ferme, et que du coup, ça a conduit ce milieu à se poser peut-être des questions qu'il ne se posait pas jusque-là, Laurent Vindevogel.
Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que je pense que l'agriculteur, en tant que tel, c'est vraiment, comment dirais-je, basé et conforté sur le quota laitier, c'est basé sur des conforts. Donc il n'a pas voulu évoluer. Moi, dans ma structure, il n'y avait aucun quota betteravier, ni laitier. Donc c'était la remise en cause sans cesse. Mais sans cesse. Donc la remise en cause, c'est quand on a la clé de voûte du commerce, c'est qu'est-ce que le consommateur attend? Quand on est producteur, et quand on n'a pas forcément la clé du commerce, on ne peut pas se mettre forcément à la base du consommateur qui le consomme acteur dans l'absolu. Donc, l'idée, c'est pas de faire un produit pour satisfaire l'outil de travail ou ses propres besoins économiques qu'on a besoin, etc., la banque, nous-mêmes, etc., mais c'est vraiment d'aller plus loin, d'aller dans une évolution, et je peux simplement dire que mon parcours personnel, c'est toujours d'aller au-devant. J'ai 35 hectares, je suis très vulnérable, et donc l'idée, c'est toujours d'aller au-delà de toute idée, et en accord avec moi-même.
Aller au-devant des attentes des consommateurs, c'est ce qui pourrait expliquer une partie de votre démarche, Étienne Gagnon, c'est-à-dire de faire aujourd'hui de l'élevage et des poules pondeuses en bio.
Oui, alors deux réponses. D'ailleurs, pour revenir à votre première question, L'éloignement entre les consommateurs et les producteurs, il est évident. Moi, je pense que les producteurs, ils ont évolué. Il y a des transitions permanentes sur toutes les fermes, donc progressivement. Mais le détachement du grand public de l'agriculture depuis les années 50, il est énorme. Et j'étais ce matin avec un député qui s'appelle Loïc Dombreval, qui est le seul vétérinaire de l'Assemblée nationale sur 577 députés, et qui me disait qu'il a été aussi excessivement surpris quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'occupe du groupe Protection Animale, de voir qu'en fait, personne dans tous les autres députés ne connaissait rien. Ils en parlaient beaucoup au monde de l'élevage. C'est-à-dire que le fossé, il s'est creusé de manière très profonde. Et ça, on ne peut pas le reprocher aux agriculteurs. Ouais. On a pris en compte ces aspects-là et véritablement, il y a de plus en plus de producteurs qui ont été sur les circuits courts. Et c'est vrai qu'historiquement, en bio, on avait un pourcentage de producteurs qui ont été très rapidement sur les circuits courts au devant des consommateurs. Et moi, j'avais envie de passer en bio depuis très longtemps. Et j'ai attendu un peu parce que c'est compliqué quand on s'installe de reprendre la ferme, de tout recaler en fonction de son projet. Et j'ai attendu 97 pour aller sur la bio. Et puis, même en bio, j'ai été très déçu des filières longues, puisque je travaillais avec un abattoir et un opérateur qui valorisait en bio, mais qui valorisait très mal, puisqu'il y avait très peu d'écart avec le conventionnel. Et donc j'ai mal vécu ça, puisque moi je fais des bœufs castrés, donc des animaux de 40 mois, là, un peu emblématiques, le bœuf charolais, des animaux d'une tonne. Et en fait, on les vendait au prix d'une vache charolaise, et je m'y retrouvais pas. Donc là, je suis parti dans une démarche de vente directe, parce que pour retrouver un peu le sens de la valorisation vraiment de mon produit.
Émilie Janin, je vous ai pas posé la question sur l'évolution du métier, parce que je crois que ça fait seulement quelques années que vous êtes éleveuse, mais en tout cas sur votre approche. Il se trouve que vous avez
12 ans. Hein.
Ah, 12 ans. Ah bah vous voyez, je pensais que c'était plus récent. Ah bah peut-être. Alors qu'en 12 ans, vous avez quand même eu l'occasion de voir les choses changer, et notamment peut-être la question de ce qu'attend le consommateur en matière de traitement de l'animal dans le cadre de l'élevage. Est-ce que ça c'est quelque chose à quoi vous êtes attentive, et est-ce que ça a pu influencer votre façon d'exercer votre métier?
Complètement. Alors, effectivement, je suis installée depuis maintenant même 13 ans sur la ferme. On a repris la ferme familiale, mais mon père avait commencé une démarche de vente directe depuis 96, donc c'est très ancré dans la famille d'être en contact des consommateurs qui sont nos voisins, nos concitoyens, etc. Donc, effectivement, on a fait des choix depuis très très longtemps d'élever d'une façon particulière, naturelle, sans antibiotiques, sans produits chimiques, sans OGM, enfin voilà, avec tout un tas de comportements aussi par rapport à nos vaches, c'est-à-dire qu'elles ont des cornes, les vaches ont des cornes, on les corne pas, enfin voilà, des trucs dont on peut discuter facilement avec les consommateurs.
Je voulais juste... Dont on peut discuter peut-être pas aussi facilement avec certains de vos collègues, parce que dans un portrait qui vous avait été consacré dans Libération, alors vous expliquiez que vous soignez notamment vos vaches avec de l'homéopathie, parfois de l'ostéopathie. Vous disiez, c'est compliqué d'en parler avec les autres éleveurs du coin, parce qu'ils me prennent pour une folle.
Oui, c'est clair, c'est qu'il y a une étude. Ouais. Je voulais revenir tout à l'heure sur la question que vous avez posée à la collègue, et sa réponse qui était que non, on nourrit grosso modo les animaux, l'agriculture n'a pas fondamentalement changé, on nourrit de la même manière qu'avant. Ce qui a changé, c'était quand même l'échelle des exploitations. Enfin, c'est vrai que mon père, quand il s'est installé en 80, il s'est installé avec 12 vaches allaitantes, et que quand moi j'ai repris sa ferme en 2006, il en avait 80, et que en 2006, en regardant les comptes, les carnets de quand il s'est installé et en 2006, on voyait qu'en fait en 2006, on vendait déjà la viande moins chère qu'en 1980. Quoi. Enfin, il y a un gros problème, et donc voilà, il y a des choses qui ont changé. La taille des exploitations a changé, ça s'est mécanisé, etc. On a voulu concentrer les fermes, et la PAC a bien été fait pour et a bien aidé. Quoi.
Donc, ça d'accord pour la taille, mais sur la façon de traiter les animaux, est-ce que vous
savez l'impression... Forcément, quand on a des fermes avec beaucoup d'animaux, on ne les traite pas de la même manière avec des fermes où on en a très peu. Quoi. Enfin, donc nous, effectivement, on a 200 bovins à la ferme, entre les petits, les vaches, etc. On est trois à travailler sur la ferme. Quoi. Mais, et je trouve que c'est limite, quoi. C'est la taille maximum pour nous trois, temps plein, c'est ce qu'il nous faut.
Il y a par exemple un projet de porcherie géante dans l'Allier, en région Auvergne, avec, alors ça c'est il y a eu un article du Monde notamment sur ce sujet, il y a quelques jours de cela, plus de 1900 emplacements de porcs à l'engraissement, plus des emplacements pour plus de 4000 porcelets. Est-ce que vous diriez, vous Yvan Leclerc qui êtes éleveur de porcs, qu'on peut difficilement concilier élevage intensif et bien-être animal? Je ne sais pas d'ailleurs combien de porcs vous élevez dans votre exploitation.
Moi je suis un peu surpris par les chiffres qui sont donnés, parce qu'en fait moi aujourd'hui j'ai 150 truies naissants engraisseurs. Présenté comme ça, c'est pas énorme. Par contre, si on dit que j'ai 1500 places d'engrais de porc, donc 1500 places à l'engrais, chaque mise bas, c'est 350 porcs salés, ça peut sembler énorme. Maintenant, je pense qu'on a aussi adapté les bâtiments à cette taille d'élevage. On est attentif à ce que nos animaux, et d'ailleurs les performances techniques qu'on a eues depuis sur ces dernières décennies, prouvent qu'on a essayé de mettre nos animaux au mieux.
Est-ce qu'on peut être attentif justement à ce bien-être quand on a autant d'animaux? Ça paraît compliqué.
Moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis un porc label rouge. Hein, dans le cadre de notre label rouge, on s'est engagé à essayer de mesurer notamment avec une petite application qui est mise en place par ma coopérative, mais d'autres pourraient le faire. C'est pas. J'ai quelqu'un qui vient dans mon élevage une fois par an, une fois tous les deux ans, qui se met au milieu des porcs et puis qui mesure la sensibilité de nos porcs à l'être humain, voir s'ils reviennent vers nous, s'ils ont peur de nous. Et le fait de mesurer ça, déjà, le fait que mes truies, quand je rentre dans la porcherie, qu'elles viennent me mordiller, me lécher, etc., je considère que si je l'ai maltraité, un animal qui est maltraité, même un être humain qui est maltraité, fuit. Mes animaux ne fuient pas. Et se trouve bien. On essaie à chaque fois de rajouter. Bon, bien sûr. Alors, il y a les règles, il y a les normes et qu'on applique. Mais on essaie d'aller au-delà. Enfin, j'entendais parler monsieur de dire on essaie d'aller plus loin. On sait que le consommateur, quand on lui parle de 4000 porcs, ça peut sembler important. Mais aujourd'hui, c'est pas une taille énorme.
Comment est-ce que vous élevez vos poules, Laurent Van de Vogel, et comment est-ce que vous réussissez à apprécier ce que serait leur bien-être dans votre exploitation?
C'est un travail de tous les jours, c'est une évolution de tous les jours. Je vais vous donner une définition, mais demain je vais prendre une autre réaction qui sera pour leur bien-être. Sortir une Bible ce soir, ça va être compliqué.
Mais on peut prendre des exemples très concrets.
Ce qui est sûr, légalement, y a une pratique. C'est que les poules sortent à 10h tous les matins, c'est une obligation. Ça se ferme.
Donc elles sortent au soleil. À l'air libre.
Obligatoire. Il y a des normes de 4 poules au mètre carré, il y a des normes au niveau de la pâture, il y a des normes, etc. Bien entendu, mais il n'y a pas de normes pour tout ce qui est mettre une radio, mettre du Mozart à l'intérieur, parce qu'on sent qu'ils vont être beaucoup plus tranquilles, peinards. Il n'y a pas de normes pour mettre de la luzerne à l'intérieur, et ça dépend de l'éleveur. Il n'y a pas de normes pour mettre de l'huile essentielle, il n'y a pas de normes pour... Vous voyez, on a toute une panoplie autour de nous, l'homéopathie est un exemple pour Émilie. C'est ça. Je vais bientôt essayer parce que faut toujours se mettre à la place de la poule. C'est la nuance de l'éleveur.
Ce que disait Émilie Jeannin tout à l'heure, c'est les vaches ont des cornes, donc il n'y a pas de raison de leur couper les cornes. Vous, par rapport aux poules, je crois que vous ne leur épointez pas le bec. Alors que ça peut se faire dans certains élevages.
Mais vous êtes bien renseigné.
On prépare l'émission, qu'est-ce que vous croyez? On travaille, nous aussi, il n'y a pas que les agriculteurs.
Alors, effectivement.
Mais pourquoi ça se fait, par exemple, dans certaines exploitations? Et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas?
Je vais aller dans un discours très pragmatique. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient vous proposer des poulettes bio, mon cher confrère, il propose même pas le nom de bécage, c'est automatique. C'est moi qui introduis en travers du bon de livraison, du bon de commande, je ne veux pas qu'elle soit béquée. Point. Ça commence par ça. Les normes, ils sont déjà... Je contrarie les normes. Et j'étais un des premiers. Pourquoi la hantise de la poule, pourquoi on les abèque? C'est très simple. C'est une question en bio. Comment dirais-je? C'est quand elles pondent, pas forcément bio, mais dans tout sens du terme, quand tu as beaucoup plus de poules au mètre carré, il va y avoir le problème du piquage. Donc le piquage, on va le résoudre en coupant le bec. Je pense qu'il y a eu des schémas génétiques, je dirais pas de marque ni rien, mais qui ont super travaillé sur la forme du bec et ils ont travaillé sur le calme. Mais quand on travaille génétiquement les poules, on va bousculer la production. Donc on va diminuer la production pour le bien-être de l'animal, donc pour éviter de couper le bec et pour qu'elle soit plus calme. Donc il est à nous, intérêt de l'éleveur, dans l'intérêt de la poule, de choisir les bonnes poules.
Étienne Gagnon, vous qui êtes en bio, comment est-ce que vous faites avec vos poules?
Bon, alors moi je suis vraiment pas représentatif parce que j'ai 250 poules. Nous c'est juste pour alimenter le magasin, donc on est sur du super extra frais. Donc en fait les consommateurs ils ont des œufs. Quand on est un peu juste, ils ont des œufs du jour. Hein. Donc des fois les œufs sont encore chauds quand on les amène au magasin puisque le magasin est à 3 km de la ferme. Donc c'est pas significatif, mais il faut pas non plus tomber dans les lieux communs. Mode d'élevage égale bien-être. Hein. Vous avez donc mon mode
d'élevage. Est-ce qu'en tout cas le label bio veut dire quelque chose en termes de bien-être ? C'est-à-dire, est-ce que si j'achète par exemple de la viande bio qui vient de chez vous, ça voudra dire aussi qu'elle a été élevée dans telles conditions ? Parce que ça, il y a pas vraiment, c'est pas très transparent si, pour le consommateur.
Le cahier des charges bio est le premier à travers son règlement européen à avoir introduit des conditions de bien-être animal. Et alors sur quelques sujets sur lesquels on reviendra peut-être qui sont l'abattage par exemple, il n'y a pas d'écart énorme parce que la tuerie c'est la tuerie, mais par exemple il y a l'interdiction d'utiliser des aiguillons électriques. Il y a un certain nombre de choses qui sont introduites dans le règlement de base. Donc ce que je voulais revenir sur le fait que j'espère, je fais le maximum d'efforts pour que mes poules soient des poules heureuses. Donc elles sont dans des cabanes en bois, il y a 3 cabanes dans des parcs, elles font à peu près ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'on ferme le soir quand la nuit tombe et on ouvre le matin quand le jour se lève. Et après, le reste du temps, elles font ce qu'elles veulent, elles ont des nourrisseurs, elles vont manger quand elles veulent, et elles vont pondre dans des nichoirs, et on ramasse les œufs à la main, et on les distribue aux consommateurs. Sauf qu'en termes de bien-être animal, j'ai un problème, c'est le prédateur. Donc j'ai régulièrement des fouines qui peuvent faire un carnage du genre, j'ai déjà perdu 40 poules en journée, en une demi-heure de temps. Et donc les conditions du bien-être animal, il faut les apprécier sur beaucoup beaucoup d'éléments. Alors il y a notamment 5 éléments qui sont un peu fondateurs du respect du bien-être animal, et notamment que l'animal ne soit jamais en danger. Quand on est dans des élevages ouverts et extensifs, l'animal, on respecte pas complètement le bien-être animal. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe que les petits élevages, les grands. Il y a des grands élevages où le bien-être est respecté et où l'environnement est respecté. Il y en a des tout petits où c'est le contraire. Donc il faut pas avoir de message simple. Il faut avoir, pour garder les pratiques, il faut regarder les pratiques des gens et leur évolution.
Émilie Janin, alors on ne va pas faire le débat classique, hein, FNSEA versus Confédération Paysanne, mais je vous laisse quand même réagir.
Bah oui, parce qu'entendre que dans des bâtiments, elles vont être plus en sécurité et mieux que dans l'espace naturel, c'est quand même une caricature en soi. Quoi.
Enfin, par rapport aux prédateurs, non.
Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, mais donc la solution par rapport aux prédateurs, mais c'est ce qu'ils préconisent aussi par rapport aux loups ou autres, ça va être de cloîtrer les animaux et de les mettre à l'intérieur, comme ça effectivement ils seront en sécurité, ça sera formidable. Bon, bref, ce qui fait que si c'est un sujet qui vient sur le devant de la scène et parce qu'il fait société, ce sujet du bien-être animal, c'est parce que l'agriculture, l'élevage et l'agriculture, c'est beaucoup trop industrialisé, qu'à un moment donné, on parlait même plus d'élevage, on parlait de production animale, et ça choque les gens, et qu'on a voulu mettre et entasser des animaux dans des bâtiments, sous prétexte que c'était plus pratique de les nourrir, plus pratique de les protéger des prédateurs, plus pratique de je ne sais quoi encore, de lutter contre les maladies, les zoonoses, etc. Sauf que, voilà, enfin, c'était juste surtout plus pratique pour les humains, mais pas du tout pour les animaux. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que nous, en tout cas, à la Confédération Paysanne, on ne porte pas, quoi. L'industrialisation de l'agriculture, c'est elle qui a fait qu'à un moment donné, la société civile, quand elle s'est rendue compte de certaines pratiques, elle a trouvé juste ça intolérable et elle réagit. Et puis tant mieux. Et de toute façon, c'est comme ça. La société a le droit de dire ce qu'elle pense.
Laurent Van de Vogel.
Je me permets d'intervenir aussi dans un sens neutre du terme, c'est-à-dire que on est tous chefs d'orchestre de notre outil de travail qui est une ferme. Point. Bien entendu qu'il y a des problèmes, moi dans mon poulet, je peux avoir des renards, je peux avoir des fouines, etc. Mais la cage à fauves est une solution toute simple, on attrape l'animal, on leur lâche un peu plus loin et basta, et c'est tout. J'ai mon agrément de piégeage, je suis piégeur, et ça fait partie de la vie, ça fait partie du risque, et je pense, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors, ce qui fait partie de la vie de l'animal de ferme, c'est aussi, à un moment donné, justement, la mort. La question de l'abattage, qui est aussi une question absolument essentielle, évidemment, dans vos métiers. Est-ce que vous diriez, alors d'ailleurs, vous, Yvan Leclerc, que votre travail d'éleveur, il s'arrête à la porte de l'abattoir, ou bien est-ce qu'il se poursuit, y compris derrière la porte? C'est-à-dire, à quel moment donné vous considérez que, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, mais que ça n'est plus votre affaire?
Alors moi, il va beaucoup plus loin que derrière la porte de l'abattoir, il va jusqu'au consommateur. Donc ça s'arrête, le passage de la porte à l'abattoir, vous allez dire c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais c'est le sujet que l'éleveur, moi j'y pense pas vraiment. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que mon animal soit abattu dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que c'est tout l'objectif de tout éleveur. C'est même pour un éleveur, c'est difficile de voir l'abattage d'un animal. Mais d'ailleurs, on parle de filières différenciées, on parle du bio, etc. Tous les animaux, même en bio, ils sont, à un moment donné, abattus.
Donc, ça veut dire que vous, il vous arrive par exemple de vous rendre dans les abattoirs au moment de l'abattage de vos animaux ou
Pas forcément des miens, mais à la limite, moi, bon, en plus, je suis administrateur d'une coopérative qui possède des abattoirs, donc à un moment donné, bien sûr, on visite nos propres outils, c'est comme nos outils. C'est pas la partie la plus glorieuse, il faut quand même l'avouer, mais malgré tout, c'est un passage obligé. Et je pense qu'il y a, à la fois, il y a une réglementation, à la fois, il faut probablement que ça évolue là-dessus. Je pense que nos animaux doivent être abattus dans les meilleures conditions. Voilà, ça, c'est, mais pour en revenir à votre question, moi, pour moi, ma production, c'est le consommateur qui m'intéresse. L'animal aussi, je fais tout ce qu'on fait, parce que on est plusieurs dans le GAEC, donc on fait tout ce qu'on peut pour que l'animal soit au mieux jusqu'à l'abattage. Il y a la partie abattage, et après on veut aussi que l'animal soit respecté. Même dans sa, j'entendais madame parler de production, pour moi, enfin, c'est pas une matière, c'est de la viande, c'est noble, ça sert à nourrir la population.
C'est comme ça que s'appellent les formations agricoles.
Comment?
Les BTS, production animale.
Ça oui, d'accord. Ça. Peut-être. Peut-être que c'est un terme à changer, je n'en sais rien.
Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de la formation, Émilie Jana, vous savez si ces questions, justement, de bien-être animal, par exemple, et des conditions d'abattage, ça fait partie des formations de ceux qui veulent se lancer dans ce métier?
Il me semble que c'est un peu trop neuf et que ça ne fait pas encore trop partie des programmes. Maintenant, à moins que ça
pourrait faire l'objet d'une émission à part, peut-être.
Voilà, je pense.
Il y a un rendez-vous au ministère de l'Agriculture demain sur former autrement. Donc, qui est en continuité de l'agroécologie et d'un certain nombre de dispositifs pour justement que l'enseignement évolue aussi, hein, qu'il soit pas en décalage avec à la fois les demandes de la société, mais aussi les transitions dans les fermes. Et donc, former autrement est aussi quelque chose d'important. Et il y a un module bien-être animal qui va arriver ou qui est déjà en cours d'élaboration pour que justement sensibiliser les jeunes.
Sur la question de l'abattage, alors vous avez un projet, Émilie Jeannin, qui s'intitule donc Bœuf Éthique, qui milite pour la mise en place d'abattoirs mobiles. Peut-être vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit, c'est-à-dire c'est quoi ces abattoirs, et où est-ce que vous en êtes de ce projet? Et pourquoi vous le faites? Puisqu'il y a des abattoirs qui existent, pourquoi vouloir...
Oui, c'est vrai, pourquoi investir et inventer et faire venir en France des abattoirs mobiles, puisqu'on en a déjà des abattoirs qui sont plus ou moins en bon état et qui fonctionnent plus ou moins bien, etc. Bah, écoutez, quand on choisit de changer de téléphone portable pour en prendre un qui marche un peu mieux que l'ancien qui commence à plus très bien fonctionner parce que la batterie est un peu HS, on se pose pas cette question. Pareil pour une voiture, donc bref. Donc, pourquoi j'en suis arrivée à cela? C'est parce que j'emmène tous les 15 jours des bêtes à l'abattoir, puisque je vends moi-même la vente des animaux sur la ferme, etc. Et que c'est un abattoir qui est menacé, parce que c'est un abattoir de proximité, qui est menacé régulièrement. L'avenir est compromis, c'est pas l'idéal. À chaque fois, j'ai 45 minutes de voiture pour emmener mes animaux. Voilà, et une fois qu'on les décharge, même si j'y assiste, il y a toujours cette phase de transport qui est stressante. Il y a cette phase de déchargement, d'arriver dans un lieu qu'on connaît pas, porteur d'odeurs que les animaux ne connaissent pas, parce que les animaux, en tout cas les bovins, sont des animaux très sociaux, donc si on les change de groupe, voilà, ça les perturbe, ils se repèrent à l'olfactif beaucoup plus que nous, enfin voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le stress, et quand on cherche à faire la meilleure viande possible, eh bien de pas pouvoir maîtriser cette phase d'abattage, c'est simplement prendre le risque de tout gâcher. C'est un peu comme si les viticulteurs de la Romanée Conti de mon département de la Côte d'Or choisissaient d'envoyer leur vin à vinifier de l'autre côté de la France. Ils le font pas, ils choisissent de tout maîtriser de A à Z sur leur domaine pour être sûr de la qualité de leurs produits. Eh bien nous, vu que ce sont en plus des animaux, nous devons faire ça.
Donc pour qu'il n'y ait pas cette phase de transport des abattoirs mobiles, où en est le projet? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez déjà ou qui n'est pas encore...
Alors, l'expérimentation, ça a été voté dans la loi Egalim qui a été agréée, enfin publiée au GIO le 30 octobre dernier, avec dans l'article 73 une mise en place d'expérimentation d'abattoirs mobiles en France, ce qui veut dire que les abattoirs mobiles ne vont pas être agréés juste pour 4 ans, c'est juste qu'ils vont être évalués sur une durée de 4 ans sur l'impact sur le bien-être animal et l'aspect viabilité économique de ces dispositifs. Voilà, moi je porte un projet d'abattoir mobile effectivement pour bovins. On travaille en partenariat avec les Suédois qui l'ont mis en place sur leur territoire en 2014 et donc qui ont des retours et une expertise et donc on est en train de travailler sur les dossiers sanitaires actuellement. Voilà.
Étienne Gagnon, vous en pensez quoi justement de ce type de projet, des abattoirs mobiles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui aurait vocation à être généralisé si ça fonctionne?
C'est-à-dire que voilà, il y a eu pas mal de débats dans la loi Egalim autour de ce sujet. Bon, je pense que l'expérimentation est la voie intéressante pour voir comment on peut le mettre en œuvre. On a regardé le modèle suédois. Il y a d'autres pays, notamment comme en Autriche, où il y a aussi des pratiques de ce type. Bon, nous, on pense que c'est très sûrement très intéressant parce qu'il y a aussi des problématiques, abattage d'urgence et tout, voilà, où le fait qu'il y ait de moins en moins d'abattoirs de proximité pose un vrai problème. Mais nous, on pense que la vraie priorité, c'est plutôt de reconditionner et de réinvestir dans les abattoirs locaux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai plan d'urgence à avoir pour maintenir les abattoirs locaux de proximité qui sont peut-être pas en bon état. Émilie Jeannin parle de celui de Autun.
Oh bah, il y en a plein. Hein. Non, il y a Montdidier, Autun,
voilà,
Chaland.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements à faire. Et alors, moi, je voulais juste citer mon exemple. C'est-à-dire que nous, dans le département du Cher, le dernier abattoir allait fermer. Et donc, la profession l'a racheté. Donc voilà, on s'est engagé donc sur des volumes d'apport et aujourd'hui donc j'emmène mes animaux à l'abattoir. L'abattoir me livre la carcasse et on découpe dans le magasin. Donc en fait, on contrôle pratiquement toutes les phases et on peut rester en bouverie, amener l'animal et essayer d'attendre la tuerie. Bon, on tue à peu près un animal par semaine ou une fois toutes les deux semaines, ça dépend de la période.
Est-ce que vous diriez que des actions comme celles qu'ont menées une association comme L214, c'est-à-dire en filmant à l'intérieur des abattoirs avec la découverte de certaines, en tout cas la mise en avant de pratiques extrêmement problématiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, dans certains de ces abattoirs, ça a été quelque chose finalement de plutôt utile pour le monde de l'élevage, c'est-à-dire obligé à se poser les questions de la façon dont on tue les bêtes aujourd'hui, les bêtes de la ferme, Laurent Van de Vogel?
Je réponds oui à la prise de conscience. Tout simplement, faut rester... Moi, je reste pas forcément producteur quand je réponds ça. Je reste le consommateur lambda et quand je vois ça, je ne peux pas accepter. Point. Je me retranche pas derrière l'agriculteur que je suis. Je rebondis sur l'abattage mobile, c'est une super idée. L'animal n'a pas de stress, on est dans le bien-être. Comme l'idée d'envoyer mes poules, la promesse, et là mes poules c'est plus qu'une promesse, puisque à la fin du mois de mai, mes poules partent en refuge dans une pâture de 16 hectares, donc ça c'est génial. C'était mon vœu le plus cher, parce que au-delà de la qualité...
Ça faut bien expliquer. Hein, parce
au-delà de la qualité que je m'étais infligé avec ma marque, la ferme de Tante-Lucie, la qualité, pour avoir une fidélisation de ma clientèle, après, aussitôt après, c'était le respect. Donc le respect de l'animal qui œuvre sur 12 mois, et pourquoi 12 mois quand
parce que vous, novice. Je rappelle juste, c'est pas pour vous interrompre Laurent Van de Vogel, même si je le fais,
oui.
Mais donc vous avez des poules pondeuses donc qui pondent pendant X mois, donc vous dites 12 mois,
oui.
Et ensuite en général, elles sont
en général à 12 mois, ils arrivent à 18 semaines.
Bon. Et on ensuite, en fait quoi ensuite?
Pendant 11 mois, elles produisent.
Ouais.
D'accord. Et puis une fois que c'est plus rentable, ça dégage. Point.
Alors moi, ça dégage, ça veut dire on les abat.
On les met à l'abattoir. D'accord. On cherche pas à comprendre.
Et les vôtres,
à 2 ou 3 centimes du kilo en Belgique. On cherche même pas à comprendre.
Les vôtres, elles partent en pension et pour mourir jusqu'au.
Le chemin n'était pas aussi simple parce que au-delà du fait que j'étais un des rares en France à ne plus autoriser les bécages, aussitôt après, l'idée, c'était de les faire partir au mieux avec les retraités. Donc, c'était de les faire des publicités pour aller jusqu'au bout de leur vie. C'était ça, l'idée. Et j'étais dans une forme de frustration pour que ça part avec l'abattoir. Ça m'embêtait.
Parce que ça vit combien de temps, une poule, si on la laisse vivre sa vie?
10 ans.
D'accord.
Donc là, l'idée, quand Sébastien est venu, l'un des trois fondateurs Poulaouse chez moi, j'ai répondu « yes ». C'est tout.
Yvan Leclerc, sur ces questions d'abattage, d'abattoir mobile notamment, et de prise de conscience aussi à travers des actions comme...
Alors pour revenir sur la prise de conscience et notamment les images qu'on a pu voir sur Internet et même à la télévision, c'est sûr que de toute façon, on voit qu'il y a des... On ne peut pas accepter ce genre d'image. Donc à un moment donné, ça remet en cause nos pratiques et il faut être attentif à ce que les choses se passent bien. Sur les histoires d'abattage mobile, je pense que tous les modèles peuvent exister. Et tous peuvent coexister à partir du moment où les modèles évoluent. Alors bon, je pense que notre modèle qui est standard, qu'on a fait évoluer par un besoin alimentaire, hein, parce que c'est vrai que sur les 40 dernières années, on a voulu développer l'alimentation. Peut-être que parfois on est allé trop loin et aujourd'hui il faut qu'on soit attentif. Moi je pense qu'aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs sont attentifs à ça. Et pour prendre mon exemple personnel, moi le fait de passer ne serait-ce qu'en label rouge, pour mon lait, mes vaches, il y a une exigence aujourd'hui, la laiterie où je livre, que mes vaches aillent pâturer, etc. Mais en limite j'en suis du moment que je suis payé un peu plus cher, que ça valorise mon métier et que j'arrive à le faire parce que j'arrive à en vivre, mais j'en suis très fier. Je suis content de voir des consommateurs arriver sur mon exploitation et de pouvoir leur dire mais porcs, ils ont plus de place que d'habitude. Mes vaches, elles ont plus d'herbe que d'habitude. Parce qu'en fait, on est payé un peu plus cher pour ça. Il faut qu'on le soit payé un peu plus cher. Il faut qu'on retrouve une valeur ajoutée sur ce plus qu'on fait, quoi.
Alors, en vin de Vogel et ensuite,
retrouver la joie d'être agriculteur.
Non, mais on est d'accord. On est d'accord.
Étienne Gagnon.
Oui. Alors, vous avez posé la question, des vidéos de L214, donc la prise de conscience, elle a peut-être été hâtive de la part d'opérateurs, mais la méthode utilisée, de toute façon, nous, on peut que la condamner, parce que quand vous visionnez et que vous mettez une caméra pendant 40 heures dans un abattoir et que vous en extirpez 3 minutes, de toute manière, vous pouvez faire tous les montages, vous pouvez faire ça n'importe où, dans n'importe quel endroit, même dans une salle de réunion, et vous vous concentrez 2 heures de réunion en 2 minutes, et vous allez voir que les gens qui se grattent l'oreille, qui se curent le nez, vous allez dire, c'est une bande de débiles. Donc,
il y a quand même une commission parlementaire, enfin voilà.
Des fondateurs
qui a travaillé là-dessus suite à ces vidéos, donc il y avait quand même sans doute davantage de fond.
Il y a eu un révélateur parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Après, derrière, on sait très bien que les gens qui ont été posés, les caméras, étaient des gens qui se faisaient embaucher volontairement et tout. Enfin, il y a eu de l'instrumentalisation derrière. Moi, ce que je dis, c'est que il y a des gens qui font ce travail-là depuis très longtemps, notamment une association qui s'appelle OABA, œuvre d'assistance auprès des abattoirs. Et la différence avec L214, c'est qu'ils frappent à la porte et ils font du bon travail parce qu'après, derrière, ils installent de la formation, de l'accompagnement. L214, elle arrive, elle tape très fort, puisque un de leurs fondateurs, Monsieur Comiti, a reconnu il n'y a pas longtemps sur un média que ce qu'ils mettaient en valeur dans leur vidéo, c'était 1% de la réalité des actes. Et en fait, ils ont fait croire aux consommateurs que tous les actes d'abattoir étaient de ce type, alors que c'est faux. Dans la grande majorité des cas, heureusement, ça se passe bien. Et quand il y a des choses à améliorer, il faut les améliorer, il faut que tout le monde s'engage. Et la manière de fonctionner, c'est quand même le progrès à petits pas d'améliorer partout où on peut améliorer.
Les conditions d'abattage, c'est un des éléments qui est mis en avant par cet appel que j'évoquais en tout début d'émission de personnalité pour ne plus manger de viande le lundi, plus de viande et plus de poisson d'ailleurs. C'est-à-dire il y a le bien-être animal au moment de l'abattage, pendant la phase d'élevage, il y a les conséquences sanitaires du fait de manger de la viande, et puis les raisons environnementales. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir, je ne sais pas quoi, injustement attaqué ou un peu incompris dans le métier que vous faites, et comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre profession, Émilie Janin?
Moi, j'ai pas l'impression d'être attaquée personnellement, donc personnellement, puis même dans les paysans que je représente à la Confédération paysanne, on n'a pas l'impression d'être attaqué du tout par la société civile.
Ou incompris.
Non plus, parce qu'en général, même encore hier, il y a des gens qui sont venus, qui nous ont reconnus dans le couloir devant. On est en train de discuter avec Jérémy De Serle, des jeunes agriculteurs, et qui nous ont dit ah,
on
vous adore.
D'agriculture.
Voilà, et on vous adore. Donc je lui ai dit, tu vois, il n'y a pas que de l'agribashing. Mais voilà, non, nous on n'en est pas du tout victime. Faut arrêter. Et à un moment donné, faut être lucide, quoi. Si les gens réagissent, c'est parce que à un moment donné, le modèle productiviste a été beaucoup trop loin. Et donc là, effectivement, on est obligé de prendre un virage qui est indispensable. Regardez, moi je suis arrivée en taxi, le taxi m'a dit il fait 22 degrés à Paris, on est le 27 février, il est urgent que les choses changent pour notre climat, pour nos enfants, etc.
De la porte de Versailles.
Moi c'est France Culture qui m'a invité pour que je sois en retard.
Donc la Confédération Paysanne est venue en taxi, et la FNSEA est venue à pied.
Et elle est financée par France Culture.
C'est le monde à la
vendeur. Et j'ai une ferme duplite avec moins d'animaux qu'Émilie Janin.
L'avenir du métier, Yvan Leclerc,
changer
de syndicat, vous le voyez comment ?
Non. Bon, je pense que si on suit les évolutions, le métier a de l'avenir. Si on suit la demande de la société, le métier a de l'avenir.
Un jeune qui vous dirait, je ne sais pas, qu'un adolescent qui veut devenir éleveur, vous lui donnez quel conseil aujourd'hui ?
D'être à l'écoute. D'être à l'écoute des consommateurs.
Vous ne craignez pas qu'on arrive dans un monde qui serait un monde, par exemple, un monde sans viande ? C'est-à-dire qu'on voit bien que le végétarisme, le véganisme...
Moi, je ne crois pas au monde sans viande.
Progresse beaucoup.
Peut-être moins de viande. Mais si c'est moins de viande, avec plus de qualité, mieux payé, mais nous, on est prêt à produire un peu moins, c'est pas un
souci. Vous avez annoncé la campagne d'Interveve là, sur le flexitarisme, qui est quand même un mode de fonctionnement en termes nutritionnels qui est plutôt intéressant, et je pense que c'est plus là-dessus qu'on se destine. Après, il y a quand même toute la problématique de la restauration hors foyer, avec énormément d'importations. Donc je pense que le consommer mieux, c'est aussi faire attention d'où viennent les produits carnés et qu'ils soient bien issus d'élevage de proximité le plus possible. Après, pour des gens qui sont dans de grandes agglomérations, ça peut être un peu plus loin, mais sur des filières qui réassurent. Je reviens juste un instant sur L214. Je rappelle quand même à Émilie Janin que L214 a fait des actions devant des biocopes en disant que même en bio, la bataille l'élevage, c'était une catastrophe. Donc ils ont essayé d'aller vers le sujet le plus négatif pour dégoûter tout le monde.
Je rappelle à monsieur de la FNSEA que personnellement, je suis pas du tout ami avec L214. J'ai reçu je ne sais combien de menaces de mort. Donc voilà.
Et par ailleurs, l'idée n'était pas faire un débat sur L214. Auquel cas, on les aurait évidemment invités. Juste un dernier mot, très court, Laurent Van Vogel, juste avant d'entrer dans le studio tout à l'heure, m'avait dit, mais je suis venu, parce que vous êtes venu, vous, pas pour le salon, uniquement pour l'émission du département de la Somme, en disant, mais j'aurais quand même été mieux du côté de mes poules, vous allez vite les retrouver derrière, c'est vraiment ça qui...
Mais oui, parce que c'est mon métier, puis je voulais transmettre un petit peu ce que je vis et ma philosophie de vie. Et je pense que nous sommes assez intelligents positivement de prendre le meilleur de tout ça. Soyons, prenons le meilleur, messieurs, dames, point. Et soyons dans la construction.
Ben voilà, je vous propose qu'on se quitte sur cette conclusion-là. Et j'espère qu'on aura aussi contribué à faire un peu mieux comprendre aussi ce que ça veut dire qu'être éleveur aujourd'hui. Merci à tous les quatre, Étienne Gourgneron, Yvan Leclerc, Émilie Janin et Laurent Van Vogel. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre Legras, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, on se retrouve pour notre partenariat mensuel avec La Croix. La question sera la suivante, faut-il noter les journalistes? Dans 3 minutes, ce sera la dispute d'Arnaud Laporte consacrée aux arts plastiques. Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Guillaume Fariol.